Bienvenue au podcast Sortie de secours présenté par Suicide Action Montréal. Mon nom est Joannie Duquette et ici, ce sera un endroit où on va vous présenter des discussions sans tabou, sans jugement sur le sujet du suicide et surtout où on va poser les vraies questions. Le suicide, il faut en parler puis on est là pour ça. Si vous êtes inquiet pour un proche, vous avez perdu quelqu'un ou si vous-même vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas, composez le 1-866-APPEL et surtout, ne restez pas seul dans la détresse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'identification de genre, d'homophobie et de transphobie. Bonne écoute! À l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'identification de genre, d'homophobie et de transphobie. Et notre invitée pour nous en parler est Mireille Saint-Pierre. Elle est coordonnatrice de l'intervention clinique chez Interligne. Bienvenue Mireille, merci d'être là.
Merci de me recevoir.
Je veux qu'on parle en premier lieu de Interligne. C'est quoi cet organisme-là? Qu'est-ce que ça fait?
Interligne, on a fêté nos 41 ans en mars. Donc, on est un des plus vieux organismes LGBTQ+, si je peux dire, en diversité sexuelle et pluralité des genres au Canada. Okay. On est un centre de première ligne pour toutes personnes qui sont concernées ou de proche ou de loin par la diversité sexuelle, la pluralité des genres. Par des actions de sensibilisation puis d'aide, notre objectif, c'est vraiment de travailler au mieux-être des personnes LGBTQ+, améliorer, par exemple, la situation de ces personnes dans la société, puis leur offrir une aide et un soutien direct également. On était anciennement connus sous le nom de Gay Écoute, donc on a changé de nom en 2017. On était quand même, on avait une notoriété importante, donc ça fait que ça a été un questionnement par rapport au changement d'identité, mais en même temps, le nom ne reflétait pas vraiment les pratiques internes, l'inclusion. Il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissaient pas dans le nom, alors que, parce que gay, ça reflète beaucoup l'image de l'homme gay,
oui,
alors que notre service principal, qui est notre ligne d'écoute, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 365 jours par année. Donc, c'est notre service majoritaire. On a également d'autres services qui sont développés pour répondre aux besoins spécifiques de populations qui sont souvent oubliées quand on a un service généraliste comme le nôtre, bien qu'il est spécifique à nos communautés, il est généraliste dans ce qu'il offre. Donc, on a développé dans les 5 dernières années, je dirais pas loin d'une dizaine de nouveaux programmes, nouveaux services pour personnes aînées, pour jeunes. Il y a des nouveaux groupes de discussion qui vont sortir bientôt, entre autres pour personnes racisées, personnes intersexes. Donc, voilà, on se développe autour de notre expertise en écoute et en intervention.
Mais j'imagine aussi qu'en 2021, moi, ce qui est une bonne chose, c'est qu'on en entend de plus en plus parler, LGBTQ+. Donc, j'imagine que vous vous adaptez aussi à ces nouvelles réalités-là.
Bien sûr. Tout le monde s'adapte, nous permet d'aider plus de monde.
Je sais qu'il y a un gros mot qui fait peur, c'est l'hétéronormativité. Ouais. On en entend beaucoup parler. Ouais. Comment ce concept-là impacte notre day-to-day, notre société en 2021 au Québec?
Bien, c'est sûr que ça a des milliers d'impacts qu'on n'abordera pas tout aujourd'hui. Certains qui sont spécifiques à nos communautés, c'est que ça entraîne une marginalisation. Si on le définit un petit peu, l'hétéronormativité, c'est tous les pensées, les attitudes, les comportements qui vont sous-entendre que l'hétérosexualité, c'est la norme et que c'est le modèle. Donc, c'est le modèle à suivre. Donc, ce qui amène que tout ce qui ne répond pas à cet ordre-là, à ce modèle-là, est, dans un sens, moins important.
Okay.
Donc, moindre, c'est ce qui amène une certaine forme de marginalisation. Donc, il y a certaines personnes qui vont être plus marginalisées que d'autres en lien avec l'hétéronormativité parce que ça ne constitue pas que le fait d'être hétérosexuel, c'est aussi le modèle du couple monogame, la petite famille, la petite
le chien,
la job, les rôles sociaux bien définis à l'intérieur du couple. Donc, l'hétéronormativité, en fait, ça n'impacte pas que les personnes LGBTQ+, mais ça les marginalise davantage. Cette marginalisation-là, en fait, va avoir plusieurs manifestations. On peut penser, par contre, tu disais justement qu'on parle de plus en plus des réalités LGBTQ+, ce qui amène le fait que ça a été extrêmement invisibilisé pendant très longtemps. Ouais. Puis même si aujourd'hui, on en parle davantage, on le voit, c'est quand même pas très visible dans énormément de parties de la société où quand c'est visible, ce n'est pas nécessairement de façon positive.
OK.
Donc, l'hétéronormativité joue vraiment là-dessus, là, sur cette marginalisation-là. Ça amène aussi le fait que, ben, il y a peu de services spécialisés pour les personnes LGBTQ+, ou bien particulièrement santé mentale, où les services qui sont là ne sont pas nécessairement bien adaptés ou bien formés en réalité LGBTQ+. Donc, une personne de la diversité qui va chercher un service en santé mentale vit visiblement et vraisemblablement des difficultés, va se tourner vers un service et dans ce service-là va vivre une autre forme de trauma. Donc, peut recevoir du rejet complet, par exemple, ou des micro-agressions qui vont, en fait, atteindre de façon négative cette santé mentale-là.
Quand on parlait tantôt, justement, tu dis, bon, il y a le modèle, la petite famille, la traditionnelle, avec le père, la mère et tout ça. Mais quand on parle, bon, pour les groupes LGBTQ+, est-ce que les entreprises pourraient poser des gestes pour être plus inclusifs envers ces gens-là?
Alors, il y en a tellement, mais il y a souvent des premiers pas à faire.
Okay.
Je dirais déjà que le premier pas, c'est de reconnaître qu'il y a des personnes LGBTQ+, dans l'entreprise. Puis, tu sais, on se regarde, tu dis « ben oui », puis...
Mais je comprends. C'est, on dirait que pour moi, c'est comme « ben oui, voyons donc, Mireille, ça n'a pas de bon sens, mais
je sais,
j'ai vu ton visage, puis j'ai fait « ok, Joanie, ok ».
Ouais, non, mais en fait, c'est que c'est pas rare qu'on entende, tu sais, je parlais de l'invisibilisation, pardon, c'est vraiment un exemple flagrant pour moi, où il y a plein de leaders, il y a plein de patrons, puis pas juste de patrons, mais de gens qui viennent nous dire « ah non, nous, tu sais, on est inclusifs, mais on n'en a pas de personnes LGBTQ+, à l'interne, c'est des boîtes de 2, 3, 4, 500 employés ». Puis notre réponse, c'est toujours
oui,
de
mais...
dire « non, c'est impossible ». Tu sais, les statistiques démontrent que... Puis là, je veux pas m'embarquer dans lesquels sont vrais, lesquels sont pas vrais, mais on sait que c'est autour de 15 % de la population qui s'identifie LGBTQ+, de reconnaître que c'est une réalité qui touche absolument toutes les entreprises, c'est un premier pas, parce que ces personnes-là vont se sentir davantage concernées.
On dirait que c'est le pas trop évident pour moi.
C'est le premier.
Il faut commencer par là.
Ça. Si on le fait pas, ça marche pas. Puis aussi reconnaître, en fait, que d'inclure les personnes LGBTQ+, il faut aussi, dans ce processus-là, faire preuve d'humilité.
Okay.
Justement, de se rendre compte que, ah ben, j'ai des pensées qui ne sont pas inclusives ou j'ai des comportements qui ne sont pas toujours inclusifs, puis absolument tout le monde a déjà eu des comportements moins inclusifs. C'est normal d'en avoir quand on n'a pas les connaissances, puis c'est important pour apprendre et mieux apprendre de reconnaître qu'on a du chemin à faire, puis de reconnaître qu'on a des comportements ou des façons de faire dans l'entreprise, des façons d'embaucher, par exemple, qui n'ont pas été inclusifs, puis qui ont même été discriminatoires d'une façon. Puis cette humilité-là, c'est ce qui va faire qu'on va faire le travail, souvent pour les bonnes raisons, mais aussi de la bonne façon. Donc, c'est vraiment un point qui est super important. Puis moi, j'inviterais vraiment toutes les personnes qui travaillent en entreprise d'aller s'informer sur notre nouveau programme, en fait, d'inclusion en milieu de travail, qui s'appelle Equifierté, où, évidemment, pour faire un travail d'inclusion et de changement, ben faut souvent aller chercher les bonnes informations. Et c'est exactement ce que notre projet propose, entre autres, par le soutien vraiment, là, l'accompagnement à l'inclusion, mais aussi des formations pour absolument tout le monde là, dans l'entreprise, si nécessaire.
Moi, Mireille, il y a quelque chose que je vois passer de plus en plus sur TikTok. Exemple, c'est des jeunes vraiment allumés et qui parlent de plus en plus des pronoms non-genrés à utiliser. Mais je pense que c'est encore une zone assez floue pour la majorité de la population. C'est quoi des pronoms non-genrés?
C'est une super question. Ça le dit, en fait, là, dans le sens que la langue française est super genrée maintenant. Évidemment, à travers toutes les années de sa construction, elle a vécu énormément de modifications. Il y a eu des temps où on en a parlé relativement récemment, je pense, un peu dans l'actualité, là, des termes qui étaient féminisés déjà, les termes autrice, poétesse, doctoresse, par exemple, qui existaient déjà. Et en français, il n'existe pas en ce moment de pronom. Il n'existait pas depuis avant relativement récemment, je dirais, de pronom qui ne genrait pas soit au masculin, soit au féminin, donc il ou elle. Et avec les avancées des droits des personnes trans et non-binaires, évidemment, il y a des communautés qui ont qui ont toujours existé, mais qui aujourd'hui se sentent un peu plus en sécurité de faire valoir des droits et des besoins. Et l'utilisation de pronoms non-genrés ou de pronoms plus neutres, qu'on va souvent appeler des néo-pronoms, donc okay. des nouveaux pronoms, okay. tout simplement. Et ça, je parle de la langue française, mais il y en a dans énormément de langues. En anglais, on peut utiliser « they », qui est souvent la façon dont on va indiquer quelqu'un lorsqu'on ne connaît pas son genre. Par contre, c'est de l'information qu'on peut quand même... Ben, tu sais, tu as parlé de TikTok, je pense mm-hmm. que c'est vraiment... c'est une mine d'or d'informations, quand oui. même. Mais par contre, il y a vraiment... Il y a beaucoup de gens qui commencent à se spécialiser sur le sujet, qui vont offrir des formations, qui vont former et créer des guides d'écriture inclusive. Si vous voulez aller sur notre centre de documentation, donc, on en a mis quelques-uns là, sur notre site Internet, nous, de notre côté, qui ont été écrits, par exemple, par des associations étudiantes, par des groupes pour personnes trans et non-binaires, par exemple. Puis je dirais que quand on parle de pronoms non-genrés, quand on parle de pronoms en général, que la personne soit trans, non-binaire ou pas, c'est juste important d'être à l'écoute de ce que la personne utilise. Quand on ne le sait pas, on demande, pour moi, puis de faire un effort, tu sais.
Parce que c'est mieux de demander que de supposer.
Tout à fait.
OK.
Il y a des façons d'éviter de genrer quelqu'un. Il y a mm-hmm. plein de formulations qu'on dit épicènes. Le gouvernement du Canada a fait d'ailleurs sur leur site web, ils ont vraiment des suggestions intéressantes de comment rendre les choses épicènes. Quand on parle d'épicènes, ça veut dire qu'on retire le genre. Tu sais, comme au lieu de dire les enseignants puis les enseignantes, on va dire le corps professoral,
ah, okay.
par exemple. Donc, comme ça, on évite... Déjà, c'est plus inclusif, c'est féministe, dans mm-hmm. le sens que ça va souvent inclure davantage les femmes dans la façon dont c'est écrit, mais c'est aussi inclusif des personnes non-binaires.
Pour l'avoir entendu quelquefois, tu fais comme « Ah non, mais c'est sûr que c'est juste une mode, ça va... Mm-hmm. Je suis sûre que ça va passer. Je suis sûre que ça va passer. Mm-hmm. » Toutes ces personnes-là qui sont pas concernées par cette transitude-là, qu'est-ce que tu aurais à dire? Dire « Non, non, mais gars, c'est pas vrai, c'est une mode, là. »
Ben non.
C'est non.
Ben non, c'est sûr que c'est pas une mode. Déjà, la transitude, ça a toujours existé voilà. dans énormément de... en tout cas, de ce qu'on est capable de recueillir comme information, historiquement parlant, dans énormément de sociétés. Et donc, non, ce n'est pas une mode. On en parle de plus en plus, on le voit de plus en plus, et c'est là la différence, c'est qu'on s'adapte, on change les choses, il y a plus de réponses aux besoins, mais le nombre de besoins n'a pas augmenté, il est exactement le même. C'est juste qu'on y répond davantage, et comme ça, on a l'impression que c'est des communautés qui prennent plus d'importance ou, bon, que, effectivement, comme c'est une mode, là, oui. Tout le monde s'identifie non-binaire, c'est pas vrai.
T'en as-tu d'autres mythes comme ça?
Mon Dieu, il y en a une tonne. Concernant les réalités LGBTQ+, en général, ben c'est ça, là, tu sais. On en entend là, sur absolument toutes les identités. Par exemple, que la bisexualité, c'est une phase. Non, ce n'est pas une phase. Okay. La bisexualité ou la pansexualité, évidemment. Non, les lesbiennes ne sont pas que des amies qui s'aiment mm-hmm. beaucoup. C'est un sentiment amoureux, c'est mm-hmm. un sentiment sexuel, c'est des relations comme les autres. Même chose pour les hommes gays également. On parle pas, ce n'est pas que de la sexualité, ce n'est pas qu'une attirance sexuelle, c'est de l'amour également. Il y en a une tonne. Si, c'est sûr que on parlait de transitude tout à l'heure, c'est vraiment une communauté qui est très marginalisée, qui mm-hmm. vit énormément, justement, de différents préjugés. Déjà, on exotise beaucoup la transitude. Mm-hmm. Les personnes trans, on les considère vraiment comme l'autre. C'est des personnes spéciales. Ouais. C'est un peu comme mythique, là. C'est ce qui fait qu'on raffermit, là, tu sais, comme ça cristallise.
OK.
C'est ça, le terme. Tu sais, si on parle particulièrement d'identité de genre, mais tu sais, ça se cristallise vers 3 à 5 ans. Donc, okay. tu sais, en fait, c'est le contraire. C'est que les enfants vont essayer de répondre au rôle de genre qu'on essaie de leur imposer, par exemple. Non, tu sais, toi, t'as un pénis, mm-hmm. donc t'es un petit garçon,
gars,
donc
tu sais,
moi, ouais. c'est ça, voilà. Puis ces rôles-là sont renforcés de toute façon, dès qu'on sait le sexe, là, je fais des guillemets, là, de l'enfant,
ouais.
sur... cette pression qu'on va mettre là en lien avec correspondre au rôle de genre. Mm-hmm. Mais vers cet âge-là, la très grande majorité des enfants savent est-ce que je suis un garçon, est-ce que je suis une fille, est-ce que je suis ni l'un ni l'autre, comment je me sens, moi, dans mon genre. Mais on, pour la grande majorité, pas les mots pour l'exprimer.
C'est ça, pas les bons termes.
Ouais, pas les bons termes. Puis je pense que j'en ai parlé un petit peu, je viens comme juste d'en parler, mais c'est pas que... C'est pas une mode, donc les gens ne s'identifient pas de plus en plus aux réalités LGBTQ+. Il n'y a pas de plus en plus de personnes, tu sais, c'est pas comme je te touche, tu dis LGBT non plus.
Ou comme
tu vois, tu sais, t'écoutes RuPaul's Drag Race, puis ah, comment, voilà.
J'imagine aussi que de les placer là, ben ça nous ramène à une statistique qui fait quand même assez froid dans le dos. Mm-hmm. C'est 45% des personnes trans qui auront fait au moins une tentative de suicide dans leur vie. On s'entend que c'est presque la moitié.
Mais cette statistique-là du 45% traite la transphobie sociale, comment on voit, comment on inclut, comment on s'occupe des personnes trans et non-binaires. Puis là, « s'occupe », c'est un drôle de terme, mais en tant que société, comment est-ce qu'on soutient? C'est sûr que c'est ce qui fait que ce chiffre-là est beaucoup plus élevé, par exemple, que ce qu'on peut voir dans les communautés LGBTQ+, qui sont déjà de 3 à 4 fois plus à risque que les personnes hétérosexuelles de comportements suicidaires ou parents suicidaires, déjà. Mais les personnes trans, tu sais, vont vivre, par exemple, le processus identitaire, il est vraiment identitaire. Donc, il le dit, c'est extrêmement profond, donc c'est absolument... envahissant pour beaucoup, beaucoup de personnes. C'est aussi pour beaucoup plus visible que, par exemple, quand on parle d'orientation sexuelle. Puis la société, quand on est dans... Par exemple, si on commence un processus de transition physique, va nous remettre constamment dans la face, si je peux dire comme ça, qu'on est différent, qu'on n'est pas comme les autres, puis qu'on est souvent un problème pour la société. Donc, se rendre à la SAQ pour son permis de conduire, c'est pas la bonne photo, c'est pas le bon nom. On se fait mégenrer.
En fait, c'est tous des petits trucs au quotidien qu'on y pense, puis on y pense pas, puis c'est pour eux, c'est une réalité, mais qui les place à part quotidiennement.
Exactement, exactement. Puis tu sais, des fois, c'est des violences qu'on appelle les micro-agressions. Donc, par exemple, se faire mégenrer. Donc, t'arrives à l'épicerie, tu te fais appeler madame, c'est pas madame. Puis c'est toute la journée, c'est pas juste à l'épicerie, c'est beaucoup de personnes que tu vas croiser. C'est toutes ces choses-là qui font que les personnes trans, bien que, comme j'ai dit tout à l'heure, sont des communautés résilientes et fortes, que même si tu as une force incroyable, à un moment, cette haine-là, c'est sûr qu'elle va t'affecter. Et c'est ce qui amène un plus haut taux d'idéation suicidaire. Si je ne me trompe pas, là, t'sais, la statistique, elle parle vraiment de tentative de suicide, mais les idéations suicidaires, on est davantage près du 75 à 80. C'est une bonne question. Je pense que déjà de reconnaître que c'est une communauté, oui, qui vit énormément de difficultés, évidemment, qui sont pour la très, très grande majorité dues à la transphobie sociale et systémique, puis à l'hétéronormativité, puis si on quand on parle d'hétéronormativité, on parle d'orientation sexuelle, puis quand on parle de cette normativité-là pour le genre, on parle de cis-normativité. Donc la cis-normativité a vraiment un impact important sur les personnes trans. Mais ce sont quand même des communautés avec une résilience incroyable, des forces vraiment...
Ils tiennent aussi, j'ai l'impression.
Exactement.
C'est ça l'affaire, là. Eux autres, c'est...
Il y a énormément de fraternité et de sororité. C'est une solidité, évidemment, comme n'importe quelle famille. C'est pas tout le monde qui est d'accord, puis ça va pas toujours 100% bien, mais c'est vraiment une communauté qui s'entraide, où les modèles sont extrêmement importants. Autant jeunes que moins jeunes, c'est vraiment une communauté qui extrêmement forte. Donc, il peut se protéger soi-même pour répondre directement à comment tu l'as dit, puis je trouvais ça super intéressant. Je pense que le travail que la société a à faire, c'est d'accepter déjà d'emblée, de travailler sur ses préjugés, de se regarder soi-même pour dire « mais qu'est-ce qui fait que notre société a autant de difficultés à... Pourquoi est-ce qu'on met autant de bâtons dans le chemin des personnes trans pour que elles faire un processus de transition, par exemple. T'sais, ça peut être très long, ça peut être très coûteux, ça peut être extrêmement difficile pour beaucoup de personnes. Tu parles de la statistique de suicide, il y a beaucoup de personnes que, justement, qui vont avoir des périodes d'idéation suicidaire dans ces moments-là, parce que c'est extrêmement difficile. C'est pas adapté non plus. Des cliniques qui font des chirurgies d'affirmation de genre au Canada, comment tu penses qu'il y en a?
Ça doit pas être beaucoup. C'est beaucoup?
Non, vas-y,
non, c'est pas beaucoup, je sais pas. Au Canada?
Ouais.
Une par province, moins? Trois?
Il y en a une.
Non!
Ici, à Montréal.
Mais voyons donc.
Ouais, je pense qu'il y en a une autre ailleurs au Canada, mais honnêtement, c'est... Donc, tu sais, t'es une personne qui veut une chirurgie de réaffirmation de genre au Québec, puis tu dois venir à Montréal. C'est sûr et certain.
C'est pas ça.
Sûr et certain. La RAMQ rembourse la chirurgie en tant que telle, ou les chirurgies en tant que telles, tout dépendant desquelles. Là. Évidemment, c'est pas toutes, mais il y en a quelques-unes, parce qu'évidemment, c'est pour la santé mentale et pour la plupart des gens, juste leur vie. Ben, tu sais, t'es à Natashquan, ben, il faut que tu viennes à Montréal. Tu dois payer tout ce qui est autour. Donc, puis c'est fou, c'est incroyable. Puis des fois, il y a beaucoup de personnes trans qui ressentent pas le besoin d'avoir ce type de chirurgie-là nécessairement, mais qui souhaitent avoir, par exemple, des bloqueurs d'hormones à l'adolescence, parce que c'est ce qui va permettre de ralentir vraiment la puberté jusqu'à ce que la personne, elle sente comme, OK, oui.
Prête à le faire.
C'est ça. Tu sais, la personne, ça se peut qu'elle vive pas de dysphorie de genre, donc que son corps soit pas, tu sais, lui apporte pas de souffrance comme il est, va prendre des bloqueurs d'hormones pour, par exemple, comme je disais, retarder la puberté, ce qui peut avoir un effet. En fait, c'est prouvé là, que les jeunes personnes trans qui ont eu accès à des bloqueurs d'hormones ont un niveau de bonheur beaucoup plus élevé. Oui. Parce qu'ils ont été beaucoup plus en contrôle de cette période de transition-là et que ça a été pris rapidement. Et donc, à 16 ans, on va dire, ben oui, tu sais, oui, je suis une femme, puis OK, je suis prête à commencer à prendre de l'estrogène, par exemple. Et là, les changements physiques, la puberté va se faire. Puis il y a des personnes qui n'ont pas eu cet accès-là et donc vont avoir une deuxième puberté plus tard parce qu'ils vont commencer à prendre des hormones, par exemple, soit des estrogènes ou de la testostérone, puis vivre toutes les difficultés qui viennent avec une puberté. Là, si on se rappelle, vous êtes peut-être dedans ou
c'est ça.
Vous l'avez peut-être fini il n'y a pas longtemps.
Mireille, en terminant, je trouve que c'est quand même une grosse question. Je sais pas, dis-moi si j'ai tort. Moi, dans mon livre à moi, un coming out, moi, j'ai pas eu à faire un coming out parce que je suis hétéro. Tu comprends? J'ai pas eu à en faire. Tu sais, ça va avec. Tu sais, j'ai l'impression. Donc, j'aimerais vivre dans un monde où il n'y aurait pas à avoir de coming out pour une personne qui est gay, bi, trans ou peu importe. Mais c'est encore la réalité pour plusieurs. Vous devez faire un coming out. S'il y a quelqu'un qui nous écoute présentement, fait comme « OK, mais j'ose pas, je suis super stressée, je vis des moments difficiles. » T'aurais-tu un conseil peut-être en terminant de dire « OK, garde, là, voici, commence par ça, là, ça va t'aider. »
En fait, quand on parle de coming out, il n'y a pas de baguette magique. Puis, il n'y a pas une seule chose à suivre parce que chaque réalité est vraiment différente. Mais s'il y a quelque chose que je dirais, ce serait vraiment de ne pas rester seule avec ça. Il y a plein de gens. Puis, je pense que c'est quelque chose, et là, je m'inclus, que beaucoup de personnes LGBTQ+, vivent, c'est le sentiment de solitude en lien avec le coming out. Le moment avant d'être capable d'en parler, l'impression d'être la seule personne vraiment qui pense par-dessus. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, pour beaucoup, je pense que, tu sais, on voit qu'il y a des personnes LGBTQ+, mais c'est d'autres, c'est la vie d'autres. Quand ça nous arrive à nous, c'est autre chose. Puis là, je dramatise ça parce qu'il y a plein de personnes que, tu sais, comme tu dis, qui ont pas un enfant des coming out parce que... leur milieu le permet. Mais je dirais juste, faut en parler. Faut pas rester seul avec ça. Faut comprendre, en fait, qu'on n'est pas seul non plus. Il y a d'autres personnes, il y a des organismes pour les jeunes où c'est possible d'aller puis parler à d'autres jeunes qui sont exactement dans la même situation présentement ou bien qui ont passé par là récemment. Il y a appelez-nous chez Interlink, tu sais, disponible 24 heures. On est anonyme puis confidentiel. Fait que, tu sais, vous pouvez texter, chatter, nous appeler. Et on n'a absolument aucune information. C'est ça qui est cool, je trouve, avec notre ligne d'écoute. C'est que vous pouvez nous dire tout ce que vous avez à nous dire. Puis la personne qui est à l'autre bout, on est un service par et pour, donc la personne à l'autre bout de la ligne, elle a pensé à travers quelque chose qui est similaire, presque quotidiennement. Mais les premières personnes avec qui on le dit ou les personnes que c'est significatif, restez pas avec ça, parlez-en. Parlez de ce que vous vivez, de ce que vous avez envie, de comment vous avez envie de le faire, puis si vous, même si vous voulez le faire, parce qu'il n'y a aucune obligation.
Bien, merci beaucoup, Mireille, puis on n'hésite pas, on en parle, puis on joint vos services chez Interlink. Merci, c'était vraiment intéressant.
Ça me fait plaisir.
Merci beaucoup d'avoir été là avec nous pour cet épisode et merci à notre invité pour cette belle conversation. On vous le rappelle, si ça ne va pas, n'hésitez pas, vous composez le 1-866-APPEL. À la prochaine!